Et Vincent Loquet, qui est avocat en droit du travail. Vincent, bonjour.
Bonjour.
Je vous appelle maître.
C'est pas nécessaire.
Comme j'ai eu un chef d'orchestre juste avant que j'ai appelé maestro.
Voilà.
Bon. On va faire simple. Vincent, vous répondez aux questions de nos auditeurs pendant 1 heure jusqu'à 10 heures sur des questions qui concernent alors quoi, le contrat de travail,
les licenciements, les ruptures conventionnelles, ouais. Les congés payés, les arrêts de maladie, les inaptitudes, voilà. Tout ce que les auditeurs veulent évoquer au niveau du droit privé.
Du droit privé, enfin, c'est-à-dire que tout ce qui est fonctionnaire, fonction publique, ça,
c'est un droit différent.
C'est vrai qu'on parle souvent des salariés, on parle rarement des chefs d'entreprise, mais ils peuvent nous appeler aussi.
Mais bien évidemment, on est à leur disposition.
Nul n'est censé ignorer la loi, c'est parfois compliqué en droit du travail. Hein.
Bah c'est compliqué dans la mesure où ça change régulièrement, et c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt de cette matière, c'est qu'il convient de se mettre à jour, et c'est intéressant à ce titre.
D'ailleurs, on évoquera dans quelques instants quelques évolutions, on l'a déjà dit dans cette émission, mais il y a des avancées pour les salariés sur les congés maladie, vous nous en direz plus d'ici quelques instants. Et puis surtout, on attend vos appels, vous avez des questions à poser à Vincent Loquet, avocat, droit du travail, 03 83 36 20 20, jusqu'à 10h sur France Bleu. On parle droit du travail ce matin dans cette émission que vous connaissez. Vous avez une question, un souci, vous voulez avoir un petit d'éclaircissement sur un point particulier, vous nous appelez au 03 83 36 20 20 et nos experts toute la semaine répondent à vos questions. Aujourd'hui, c'est droit et droit du travail avec Vincent Loquet qui est avocat. Vincent, nous accueillons André qui nous appelle de Lunéville. Bonjour André.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bonjour André.
Oui, bonjour. Ben écoutez, la Cour de cassation du 13 septembre 2023 a acté le fait que les congés ne sont plus perdus pendant l'arrêt de maladie.
Exactement.
L'arrêt de maladie, voilà. Et je voulais savoir si cela a été rendu dans le Code du travail, si c'est en application, puisque la Cour européenne a forcé la France à mettre ça en application.
Est-ce que vous êtes concerné, André, pardon de ma question un peu indiscrète?
Ben, c'est pas moi qui suis concerné, c'est mon épouse.
D'accord, ok. D'accord. Alors, revenons sur cette affaire,
voilà,
c'est droit
écoutez,
européen.
André, vous avez exactement résumé les choses, puisque effectivement, à l'origine, c'est un arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, mais qui oblige la France, entre guillemets, à se mettre en conformité avec le droit européen, étant entendu que ça fait longtemps que le droit européen sur les congés payés est différent de celui qui était appliqué en France. Alors, vous nous posez la question aujourd'hui de savoir s'il y a un projet de loi qui est en préparation pour permettre que la France soit en conformité sur ce point-là. Je vous le confirme, on est dans les derniers jours, voire les derniers instants de la préparation de ce projet de loi. Il y a des amendements qui sont en train d'être finalisés. Alors, je peux même vous donner les grandes lignes de ce projet de loi par rapport à la mise en conformité. Donc, dans ce projet de loi, il y a la confirmation de ce que les salariés en arrêt de maladie classiques bénéficieront d'un droit à congé payé.
Oui, d'accord.
Que ce droit sera toutefois limité à 2 jours par mois. Hein, je rappelle que pour les salariés normaux,
c'est
2 jours et demi. Là, ça serait limité en fait à 2 jours par mois.
Mm-hmm.
Donc, dans la limite de 24 jours par an.
Oui,
avec une nouvelle obligation pour tout chef d'entreprise qui a des salariés en arrêt de maladie, c'est à leur retour d'arrêt de maladie, de les convoquer, de les recevoir dans les 10 jours pour les informer sur leurs droits à congés payés.
D'accord.
Et tout salarié disposera d'une période de 15 mois au maximum pour pouvoir prendre, à l'issue de son retour d'arrêt de maladie, les congés payés acquis pendant cette période-là.
Est-ce que c'est rétroactif?
Oui, c'est rétroactif. Dans le projet de loi, ça serait rétroactif au 1er décembre 2019.
D'accord.
Voilà.
Donc,
et
pour les
dernière
salariés,
précision importante, pour les salariés dont le contrat de travail a été rompu, ils disposent d'un délai de 3 ans pour faire valoir leurs droits. Et pour les salariés qui sont en cours de contrat de travail, par contre, ce délai est réduit à 2 ans.
Voilà. D'accord. Et quand est-ce que la loi sera votée, sera...
Alors, moi, je pense que d'ici 1 à 2 mois, ça sera...
D'accord, réglé.
Voilà, ça sera réglé.
D'accord. Ça vous va, André? Vous avez... La réponse à votre question?
Oui, et lorsque l'employeur, malgré une réclamation, ne prend pas acte de ceci, en prétextant que l'incertitude jurisprudentielle réglementaire ne permette pas de modifier les règles du droit du travail.
Ça, c'est effectivement la réponse qui s'est énormément faite ces derniers mois.
Voilà.
Du côté employeur, mais parce que les organisations syndicales patronales avait adopté cette position qui se comprenait, André, parce qu'on était dans une période totale d'incertitude hein, par rapport à la jurisprudence de la Cour de cassation.
C'est plus le cas.
Ben, ça ne sera plus le cas une fois que le projet de loi sera terminé.
D'accord.
Voilà,
hein. Une fois que la loi est adoptée,
bien
c'est
sûr,
fini.
Bien sûr.
Et un chef d'entreprise qui ne veut pas se mettre en conformité avec la loi ?
Eh bien, au vu de du projet de loi qui est prévu, il est clair que les condamnations tomberont.
Oui.
Donc, je pense que le conseil qu'on peut donner à toutes les entreprises qui nous écoutent, c'est de paramétrer à l'avenir, bien évidemment, leur logiciel de congés payés parce que les nouvelles règles sont différentes. Et puis, bien évidemment, de faire une analyse personnalisée de leur situation et sur ces sujets-là, bien sûr.
1er décembre 2019, votre femme est concernée, André, par la rétroactivité ?
Ma femme a été en arrêt maladie du 1er avril 2022 au 21 septembre 2022.
Bah, elle est dedans. Hein. Oui,
il me semble qu'elle rentre dans le cadre.
Bien sûr.
Donc il faut simplement attendre, André. Mais voilà.
Surtout que l'employeur vient donner une réponse le 5 avril en contestant cette décision.
Bien sûr.
Mais on posera la question plus tard.
Exactement. Mais en tout état de cause, cette situation, cette réponse d'attente. Mm-hmm. Si vous êtes parvenu à votre épouse, en fait, ne sera, à mon avis, plus valable dans quelques semaines.
D'accord. Et c'est l'employeur qui va revenir vers l'épouse d'André ou c'est à l'épouse d'André?
Je ne sais pas.
D'André
je pense que c'est peut-être à André, enfin, à l'épouse d'André. Okay. À un moment donné, de réactiver la chose.
Voilà, André. Merci beaucoup.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Bonne journée à vous.
03 83 36 20 20. Vous avez des questions à poser à Vincent Loquet. Il est avocat. On parle de droit du travail ce matin, le droit privé. Hein. 03 83 36 20 20. Avec Vincent Loquet qui est avocat, c'est le droit du travail ce matin. On attend vos questions. Mais il y a de la place, tiens, ce matin. Si vous avez un souci avec vos heures de travail, votre contrat de travail, un licenciement, des congés, un petit coup de fil au 03 83 36 20 20. On répond, en tout cas, Vincent répond jusque 10 heures sur France Bleu, n'hésitez pas à nous appeler. Alors, on a parlé de cette mise en conformité du droit français avec le droit européen sur les congés payés. C'est vraiment, depuis quelques mois, la question
exactement,
centrale.
Exactement, ça c'est vraiment la question centrale sur laquelle il y a des évolutions quasiment toutes les semaines. Et là, je pense qu'on arrive au bout du chemin.
On arrive à faire la fin de notre feuilleton. De quoi va-t-on parler après?
Oui, mais ça va peut-être aussi faire quand même pas mal de contentieux dans le futur.
Et donc du travail pour vous, Vincent?
Peut-être.
Voilà. Alors, autre actualité, peut-être dont on parle un petit peu moins en ce moment, cachée par les congés, c'est les preuves que l'on peut apporter dans un conflit avec son employé.
Dans le procès prud'homal.
Dans le procès prud'homal. Jusque-là, il y avait ce qu'on appelle des preuves licites, j'imagine.
Voilà, des preuves régulières, licites. C'est-à-dire que tous les coups n'étaient pas possibles, entre guillemets. Hein, parce que souvent, on est consulté sur des problèmes. Est-ce que je peux enregistrer mon employeur ou est-ce que mon employeur peut m'enregistrer? Est-ce que mon employeur peut me filmer, etc. Et tous ces éléments-là, on se pose la question de savoir est-ce qu'ils peuvent constituer des preuves.
Donc jusque-là, c'était non.
C'était non, et c'était un non assez ferme au nom des libertés individuelles, de la protection, bien évidemment, de toutes ces libertés qui appartiennent aux salariés. Et depuis le début de l'année 2024, là aussi, par différents arrêts de la Cour de cassation, on sent une évolution très importante, puisqu'on commence à admettre, entre guillemets, si je schématise et simplifie, les preuves dites jusqu'à présent illicites ou irrégulières. Et ça peut être des enregistrements vidéo, des enregistrements éventuellement audio.
Un téléphone qui traîne
sur une
table.
La dernière affaire qui mérite notre attention, elle est assez récente, elle date de février 2024. C'est un arrêt de la Cour de cassation de février 2024. C'était une pharmacie qui faisait l'objet en fait de détournement de fonds dans sa caisse. Et la pharmacienne en question a utilisé les enregistrements vidéo qui avaient pas pour objet de surveiller la caisse de sa pharmacie, mais un autre objet. Et ces vidéos, cet enregistrement vidéo n'avait pas été déclaré au CSE, c'est-à-dire en fait au Conseil économique et social de l'entreprise, et n'avait pas non plus été porté à l'information des salariés. Eh bien, pour autant, la salariée qui détournait a été confondue par les vidéos et ça a été admis par la juridiction et par la Cour de cassation comme étant une preuve déclarée licite.
Donc, ça veut dire que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, salarié, je suis en conflit avec mon patron. Je peux enregistrer une conversation. Ça peut être une preuve.
Ça peut être une preuve.
Mais l'inverse, c'est vrai également.
Exactement. Mais il y a bien évidemment des garde-fous, heureusement. C'est-à-dire que cette preuve devient licite, si vous me permettez l'expression, uniquement à partir du moment où ça reste l'unique moyen de preuve pour que en fait, le débat soit tranché et que l'atteinte en fait, au droit du salarié ne soit pas disproportionné. Mmh.
Quand on est employeur particulier, est-ce que le droit est le même ? J'ai une femme de ménage, un homme de ménage, une nounou, je la filme ?
Bah, particulier employeur, je suis employeur, donc il n'y a pas de raison que les règles soient différentes sur ce sujet-là. C'est vrai qu'on entend régulièrement des dossiers où des caméras sont cachées en fait, dans la maison pour vérifier si la personne en question fait correctement son travail. On peut imaginer que ce débat existe demain. Mmh. Oui.
Dans les preuves acceptées, on parle souvent des mails.
Oui.
Une boîte d'entreprise.
Oui.
Est-ce que le patron peut se servir des mails comme
preuve ? Alors ça fait longtemps que les règles sont assez clairement définies sur ce sujet-là. Si c'est une messagerie avec votre adresse professionnelle de messagerie, l'employeur peut toujours y accéder, les consulter, sauf si le salarié a expressément en fait indiqué qu'il s'agit d'un message personnel.
C'est-à-dire que si dans l'entête je mets privé ?
Exactement, c'est privé.
On n'a pas le droit de mettre.
Tout à fait.
D'accord. OK. 03 83 36 20, vous avez des questions à poser à Vincent Loquet, il est avocat, c'est dans le droit du travail. Ce matin, n'hésitez pas 03 83 36 20 20 jusque 10h sur France Bleu Lorraine. Et on attend vos appels au 03 83 36 20 20, des questions à Vincent Loquet qui est avocat, c'est le droit du travail sur France Bleu Lorraine. Vos questions et ses réponses. Moi, je suis juste là pour passer la parole. Pas grand-chose d'autre. Dans l'actualité, Vincent, du droit du travail et des contentieux, des litiges, on lit beaucoup, je vois un article de l'Est républicain qui date d'il y a 3 semaines, que les prud'hommes ont moins la cote, qu'il y a moins d'affaires aux prud'hommes. Alors déjà, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est valable partout et est-ce qu'il y a une raison ?
Alors c'est vrai. Alors je ne sais pas si on peut dire que les prud'hommes ont moins la cote, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a moins de contentieux au prud'homme, mais on peut, pourquoi pas, s'en féliciter.
Le monde du travail s'apaise ?
Je ne crois pas qu'il s'apaise. En tout cas, en fait, les conflits se règlent différemment.
D'accord.
Je pense que ça, c'est une vraie tendance qui... Voilà. Et moi, je dois dire qu'à titre personnel, je suis favorable à cette idée-là, que moins on a affaire à la justice, mieux on se porte. En tout cas, il y a d'autres façons de régler les litiges que forcément s'adresser à la juridiction prud'homale. Alors, pourquoi, en fait, les litiges sont moindres ? D'une part parce que on se souvient qu'en 2017, Monsieur Macron à l'époque, qui n'était pas encore totalement président au moment où il a instauré ce texte, a prévu des barèmes d'indemnisation en cas de licenciement abusif, qui font que, concrètement parlant, avec moins d'ancienneté, on n'a pas forcément intérêt à s'adresser à la justice parce que le barème d'indemnisation qui est encadré n'est pas forcément très intéressant. Mmh. Ça, c'est la première raison. Et puis, d'autre part, surtout parce que depuis 2008 a été instauré en France donc les ruptures conventionnelles, oui, et qu'on peut dire que c'est un vrai succès parce que les ruptures conventionnelles ne sont pas sujets à conflit une fois qu'elles sont signées, ne sont pas sujets à litige, pas dans la plupart des cas, de façon générale. Et à partir de ce moment-là, ce sont des ruptures du contrat de travail qu'on va dire pacifiques. Non contentieuse.
Où les deux parties s'y retrouvent.
Où les deux parties sont censées s'y retrouver, même si, enfin, il ne faut pas se leurrer, dans la pratique, il y a toujours une des parties qui est quand même à l'initiative de. Donc qui fait supporter sa décision à l'autre et qui, entre guillemets, l'amène à l'accepter. Mais en tout état de cause, c'est sûr que ce genre d'évolution explique le fait qu'il y a moins de ruptures contentieuses.
Quand c'est le salarié qui souhaite une rupture conventionnelle, alors ça semblait. Pratiquement automatique il y a encore quelques mois de cela, ça l'est moins depuis quelques mois, pourquoi ?
Oui, ça l'est moins, on le constate dans la pratique, parce que les ruptures conventionnelles, qui resteront un vrai succès, hein, parce que je donnais un chiffre pour donner l'idée de ce que ça représente, c'est 400 000, en fait à peu près 400 000 ruptures conventionnelles signées par an, ce qui est énorme. Peut-être que ce chiffre va baisser, j'ai pas encore suffisamment de recul pour le dire de façon claire et nette, mais on peut penser que cela va se réduire. Pourquoi ? Parce que depuis le 1er septembre 2023, le taux en fait du forfait social sur le montant des indemnités de rupture conventionnelle a été porté de 20 à 30%.
Ça veut dire que l'employeur paye plus de charges, je ne sais pas comment on appelle ça.
Le forfait social, c'est les charges sociales sur l'indemnité. Alors, cette mesure-là, en fait, elle avait pour objet de freiner surtout les ruptures conventionnelles sur le public, on va dire, en fin de carrière, avec beaucoup d'ancienneté. Parce que, bien évidemment, les indemnités sont plus importantes et que, forcément, le coût sera plus important.
Une retraite anticipée déguisée, en quelque
sorte. C'est ce qui se pratiquait souvent.
En quelque sorte. Alors, si les charges de l'employeur sont plus grandes, est-ce que ça veut dire que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, elle est plus basse qu'on... Ça se négocie
non.
ou pas ?
Alors, ça se négocie, mais ça se négocie dans une limite minimum. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une indemnité de rupture conventionnelle qui est moins importante de ce que serait l'indemnité de licenciement.
D'accord.
Donc ça, c'est déjà un minimum. Après, ensuite, tout est négociable. Ça peut bien évidemment être négocié à la hausse s'agissant de ce montant-là. Moi, là où j'invite aussi les auditeurs à être méfiants, parce que quand on fait une rupture conventionnelle et qu'on l'a fait comme ça sans trop réfléchir, en l'acceptant facilement, on ne se rend pas compte qu'éventuellement, les sommes qu'on pourrait percevoir au-delà de l'indemnité légale de licenciement se transforment en fait en carence par rapport à l'indemnisation de France Travail.
Oui.
Donc, ce que j'ai tendance à dire, que c'est ce qu'on gagne d'un côté...
On le perd de l'autre.
On le perd de l'autre.
D'accord. Voilà. Alors, attention, rupture conventionnelle, ce n'est pas abandon de poste. Hein. De ce point de vue-là, la réglementation a évolué aussi. Aujourd'hui, si on ne se présente pas à son travail, parce que simplement on en a marre en se disant « bon, ouais, j'aurai droit au chômage, au revoir »,
non,
ça ne marche plus.
Ça ne marche plus, à condition que l'employeur respecte un certain nombre de règles. Et ça peut être considéré comme étant une démission. Cet abandon de poste, mais c'est à la condition, je le rappelle rapidement aux auditeurs et notamment donc aux chefs d'entreprise, il faut mettre en demeure le salarié de reprendre son travail dans les 15 jours du début de l'absence.
Une petite lettre
recommandée, ouais, hein, ouais, pour se ménager, ouais, la preuve. Et une fois que cela est fait, que l'employeur, le salarié n'y a pas répondu, c'est uniquement à partir de ce moment-là que, en fait, on peut le considérer comme démissionnaire et cette démission n'ouvrira pas droit en fait à l'indemnisation chômage.
Et ça, c'est nouveau.
C'est nouveau et ça a été mis en place à compter de janvier 2023.
Bon, donc attention, on fait les choses correctement.
Bien sûr.
Même si on ne peut plus se voir en peinture, ce qui est parfois le cas dans le monde du travail. 03 83 36 20 20. Vous avez des questions à poser à Vincent Loquet, il est avocat, c'est le droit du travail ce matin. On attend vos questions. 03 83 36 20 20. Avec Vincent Loquet, il est avocat, ben on ne croule pas sous les appels. Hein, Vincent, aujourd'hui, il fait trop beau.
On peut le dire.
Ou alors, voilà, c'est un moment où on n'a pas envie de penser au droit du travail, ce qui est possible aussi. Si vous avez des questions, ben, y a de la place, ça c'est la bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez nous appeler et très vite passer à l'antenne au 03 83 36 20 20. Pourtant, il me semble que bah, c'est comme dans tout, hein, y a des marronniers, il y a des choses qui reviennent régulièrement, bah, par saison. Et là, on est quand même dans la période des congés. On a certainement déjà proposé ou posé ces congés pour les grandes vacances.
Exactement.
Déjà, est-ce qu'il y a un délai pour poser, pour se les voir accepter, pour se les voir refuser? Comment ça fonctionne?
Il n'y a pas de délai en soi qui est fixé de façon stricte, claire. On doit dire simplement que l'employeur doit prendre les devants et donc mettre en disposition les salariés de poser ses souhaits de congés. Mmh. Hein, parce que je crois qu'on peut quand même rappeler la règle qui consiste à dire quand même que
c'est le patron qui...
Voilà, que c'est à l'entreprise, en fait, de décider, oui, des dates de prise de congés payés. Hein. Le salarié n'est pas en mesure de les imposer. Simplement, l'employeur, lui, il ne peut les imposer au final qu'à la condition que lui, de son côté, a respecté ses obligations, c'est-à-dire que de façon suffisamment tôt dans l'année, il ait recueilli les souhaits de l'ensemble des salariés. Et qu'une fois tous ces souhaits recueillis, ils puissent faire le point et déterminer les prises de congés payés en fonction des impératifs de l'entreprise et des choix que l'employeur fera, en fait, en la matière.
Et donner une réponse, j'imagine,
toujours donner
la
une
moins
réponse,
tardive
qu'elle,
possible.
Qu'elle soit positive, mmh, ou négative. Une réponse négative d'un employeur par rapport à une demande de congés payés, quand bien même elle serait dans les délais de la part du salarié, n'est, oui, jamais fautive.
Oui. Hein. Donc si j'ai fait des souhaits en janvier et que là en avril, j'ai toujours pas de réponse, ça c'est normal ?
Non, c'est pas normal. Là, pour le coup, il faudrait relancer parce que c'est un manque de loyauté de l'employeur, oui, par rapport en fait à cette demande exprimée. Bon, après, on sait bien aussi que comment ça se passe dans la pratique, chacun fait au mieux. Mm-hmm. Mais en tout état de cause, ce que je dis souvent en fait aux employeurs, c'est qu'ils sont légitimes à imposer droit à congé payé à condition qu'ils puissent démontrer qu'ils ont respecté leurs, mmh, obligations.
Mais on ne fait pas ça pour embêter le salarié.
Non, hein.
Ça, c'est interdit de l'utiliser comme moyen de pression. Faut-il encore pouvoir le prouver?
Oui, mais parce qu'en fait, l'employeur a le dernier mot en la matière. Et c'est, mmh, normal compte tenu de l'organisation de l'entreprise, mais à la condition que s'il y a refus, le refus soit un refus qui repose sur des éléments objectifs, mmh, non discriminatoire, que ça ne soit pas une sanction déguisée, mmh, par exemple. Mmh. Voilà.
Alors ça, c'est le premier frottement, ouais, c'est les congés, l'acceptation des congés à des moments où tout le monde est d'accord. Et puis ensuite, les congés sont acceptés, ouais, les vacances approchent, et mon employeur, pour une raison X ou Y, souvent valable hein, d'ailleurs, décide, ouais, de me les déplacer, ou de me les supprimer, ou de me les rogner. Est-ce que ça, c'est légal?
Alors de les supprimer ou les rogner, sûrement pas. Il peut éventuellement être tenté de les déplacer et donc de les remettre en cause quant à la durée qui avait été prévue avec le salarié. Alors ça, c'est strictement encadré, hein, dans la mesure où c'est difficile de le faire dans les 30 jours qui précèdent la prise en fait, de congé. Et pour pouvoir le faire, il faut pouvoir justifier de circonstances exceptionnelles. Voilà.
Donc c'est une très... surcharge de travail.
Oui, mais honnêtement, ouais, c'est quelque chose qui est très compliqué à démontrer. Il faut vraiment en fait une circonstance exceptionnelle tenant une surcharge de travail, à mon avis, ne suffirait pas. Ou alors, il faudrait vraiment que ça soit une surcharge de travail qui s'inscrive dans une période de difficulté de l'entreprise, par exemple, pour donner du poids à cette remise en cause.
Et est-ce qu'il y a une contrepartie ? C'est-à-dire que, allez, 15 jours avant mon départ en vacances... Et pour des raisons valables, mon employeur déplace mes congés, j'ai payé un billet de train, un billet d'avion, une réservation, qu'est-ce qui se passe ?
Il n'y a pas de contrepartie fixée par la loi, mais simplement, simplement, on s'aperçoit quand même que dans la pratique, l'employeur qui est confronté à cette situation et qui souhaite la présence du salarié pour des bonnes raisons et la remise en cause, bien évidemment, il fera l'effort de rembourser le cas échéant, le billet de train, les ajouts. Ça se passe, du moment que ça se passe dans le dialogue et dans l'explication valable, généralement, je ne suis pas confronté à de difficultés sur ce point-là.
03 83 36 20, vous avez des questions à poser à Vincent Loquet, c'est le droit du travail. Un petit coup de fil ce matin, on vous attend. 03 83 36 20 20. Et vos questions au 03 83 36 20 20 à Vincent Loquet, notre avocat. Alors, je réponds à Jean-Jacques qui nous a appelé il y a un instant pour nous poser une question sur la fonction publique. Non. La fonction publique.
Non.
Il y a des avocats spécialisés dans le droit.
Exactement, qui sont spécialisés dans le droit administratif. Hein, il faut s'adresser à des avocats spécialistes en droit administratif parce qu'une des spécialités du droit administratif, c'est justement la fonction publique et les règles relatives à la relation de travail.
Donc nous, on reste dans le privé. On va accueillir Véronique qui nous appelle des Célé-Nancy. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Bonjour Véronique.
Bonjour, expliquez-nous. Vous travaillez avec des particuliers employeurs, c'est ça Véronique ?
Voilà, c'est ça. Particulier, employeur, je suis femme de ménage. Et je suis donc chez différentes personnes. Hein, dans la journée, je peux avoir 3 ou 4 personnes. Et quand ces personnes ne me prennent pas, parce qu'elles sont en vacances, parce que voilà, en RTT ou quoi, ben je n'y vais pas et elles ne me payent pas. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est...
Alors, elle est en CDI, Véronique, ou pas ?
Alors, elle est en CDI, oui, puisque en fait, il n'y a pas de contrat de travail, hein, j'imagine, Véronique, qui est établi.
S'il y a des contrats de travail, ils me font signer un contrat. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur le contrat ? Je ne sais pas si
j'ai jamais regardé. Alors, il faudrait déjà regarder, la première chose, le nombre d'heures que vous faites chez chaque particulier employeur que vous citez là ce matin. Hein. Parce que si on dépasse le seuil de 8 heures par mois, ça a une influence sur ce sujet-là. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que déjà... par rapport au fait que votre employeur ne vous prenne pas lorsqu'il est en congé, par exemple, il faut voir si le taux horaire qui figure dans votre contrat de travail inclut, en fait, les congés payés. Parce que, est-ce que l'idée, c'est de dire que quand votre employeur n'a pas besoin de vous, entre guillemets, est-ce que ce sont vos jours de congés payés, auquel cas il n'a pas l'obligation de vous rémunérer les jours en question, si en fait c'est vos jours de congé payés. Et vous n'avez pas le droit à une rémunération complémentaire là-dessus, puisque votre taux horaire en fait inclut déjà le paiement des congés payés.
Les 10% en quelque sorte.
Ouais.
Oui, les fameux 10%. Parce que moi, les 10%, je pensais que c'était pour moi, si je dois prendre des vacances, je les mets de côté. Chaque personne qui me paye, je mets 10% de la somme de côté et je prends des vacances. Quoi.
Mais vous les prenez en plus de ces jours où ils ne font pas appel à vous.
Alors, je n'en prends jamais. Pour être honnête, je ne prends jamais de congé parce que moi, si je prends une semaine de vacances, 10%, ce n'est pas assez. C'est franchement pas assez. Je me retrouve avec une minime somme et je ne peux pas.
Je comprends, mais ce droit à congé payé, c'est un droit pour vous. Hein, et votre employeur, d'ailleurs, je le dis entre parenthèses, devrait veiller, en fait, Véronique, à ce que votre droit au repos soit respecté. Hein, ce qui, quand même, pose problème.
Parce que le problème, c'est que quand ils prennent des vacances, c'est différentes personnes et ils ne communiquent pas ensemble.
Forcément, bien sûr.
4 heures par ici, 1 heure par là, 2 heures par là.
Donc, voilà. Donc, ce n'est pas des vacances pour Véronique.
Alors, ce que je vais vous dire, ça va être assez compliqué, Véronique, mais en fait, il faudrait que vous puissiez vérifier chez chaque particulier employeur que les jours où ils ne vous font pas travailler dépassent votre droit à congé payé annuel, qui est de 30 jours.
D'accord.
De 30 jours. Et s'il y a plus de jours que 30 dans l'année où ils vous disent « Non, Véronique, je n'ai pas besoin de vous », là, ce n'est pas normal et vous êtes en droit de demander le paiement sur les journées considérées.
Mais alors, moi, je vais quand même je vais prendre un peu la défense de Véronique parce que moi, j'ai été particulier employeur et il me semble que dans un contrat de travail, il y a des heures de travail. On travaille le lundi, le mardi, voilà.
Tous les jours.
Et qu'on doit payer. Si c'est nous qui décidons que Véronique ne vient pas, surtout que souvent, j'imagine qu'on vous le dit 2 semaines avant.
Une semaine avant, on doit la rémunérer.
Mais c'est pas.
C'est vrai, sauf que on s'aperçoit que s'agissant des particuliers employeurs, il n'y a pas souvent en fait de contrat de travail.
Ouais.
Hein, souvent avec le système du CESU, on se contente du paiement par chèque et il n'y a pas les contrats de travail qui formalisent concrètement parlant soit le nombre d'heures, soit en fait la répartition de ces heures sur la semaine.
Ouais.
Voilà. Donc c'est ça le problème aussi. Et puis deuxième problème, c'est que en droit du travail français, les relations avec les particuliers employeurs n'ont pas respecté les obligations en temps partiel normal.
D'accord.
Voilà. Donc c'est ça qui complique un peu tout sur le sujet. Mais moi ce que je dis en fait à tous les auditeurs qui sont concernés dans ce type de relation, s'il y a un contrat de travail, c'est vraiment mieux.
D'accord. Donc, vérifiez votre contrat de travail, Véronique.
Je vais regarder parce qu'il y a des gens qui m'en donnent, des gens qui ne m'en donnent pas.
Ouais.
Donc, moi, mon côté CESU, j'ai mon côté à moi, mais eux, c'est le côté employeur. Je ne sais pas comment que c'est différent du mien. Je ne sais pas quels sont leurs droits.
Mais faites le point là-dessus, Véronique, parce que c'est important.
Et si un contrat de travail
Si un contrat de travail, les règles sont fixées, les jours sont fixés, les heures sont fixées.
Voilà.
Et là sincèrement, Véronique, si les heures sont fixées, et l'employeur est obligé en fait de vous les donner, sauf à justifier que sur la journée considérée, il vous met en congé payé.
Oui. Voilà, tout simplement, Véronique.
Voilà. Je vois par exemple qu'il y a une dame qui ne me prend pas le mois complet, le mois d'août complet.
Ouais. Ouais.
Donc ça me fait quand même pas loin de 250 euros en moins sur mon salaire.
Ouais.
Là, un mois complet, est-ce qu'elle doit...
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire un mois complet...
Je regarde encore,
Véronique, si le mois complet correspond à votre droit à congé payé... Ça, elle est dans son droit de vous dire, moi je prends les congés payés.
Même si les autres ne prennent pas, est-ce qu'elle n'a pas le droit de vrais congés, Véronique? Est-ce que les employeurs eux ne doivent pas se mettre d'accord?
Ça serait dans un monde idéal, ça.
Ouais.
Mais en soi, je veux dire, dans les situations de multi-employeurs où il y a 10, 12 employeurs, c'est compliqué avant de poser ses propres congés à titre personnel. Vous imaginez, Véronique, si en fait, à votre personnel qui intervient chez vous, avant de lui fixer ses congés payés, vous deviez consulter les 12 autres employeurs.
Donc finalement, le mieux pour Véronique, ce serait presque de prendre des congés, de dire « moi, je ne suis pas là en juillet ».
Exactement.
Et puis, pour le reste de l'année, elle doit être payée.
C'est tout à fait ça.
D'accord.
Voilà,
Véronique.
Je peux faire ça, je peux demander... il faut que je regarde mon contrat.
Oui, mais Véronique, vous avez dit tout à l'heure à l'antenne que vous ne souhaitiez pas utiliser vos droits à congés payés. Donc,
c'est pas que je ne souhaite pas, c'est que je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas.
Je comprends.
C'est que je ne peux pas.
Ouais.
Parce qu'après, je vais avoir. Ça me fait beaucoup trop de trous sur mon. On va arriver au mois de mai. Le mois de mai, il y a plein de jours fériés. C'est très pénalisant pour moi. J'ai plein de trous.
Mais les jours fériés, elles doivent être payées ou pas?
Au niveau des jours fériés, là-dessus, il n'y a pas de règle pour les particuliers.
Le 1er mai, par exemple.
Le 1er mai, mais si elle travaille.
Si c'est un jour travaillé habituellement.
C'est un jour travaillé habituellement.
Je travaille. Je travaille.
Alors, il faudrait voir ça avec le particulier employeur chez qui vous travaillez ce jour-là.
Ah là 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 là. Moi, je vous comprends, Véronique, parce qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais souvent le particulier employeur, et je l'ai été, donc je sais que c'est compliqué, l'ignore, et que ceux qui payent les pots cassés, c'est...
C'est nous,
Voilà.
Il faut bosser, puis puis on se repose pas.
Mais parfois, en parlant, parce que parfois on ignore les choses en toute bonne foi, parfois en parlant, ça débloque les choses. Il faut juste oser en parler quand on est tout seul, c'est pas facile.
Exactement.
Véronique, on vous a entendu. Bonne journée en tout cas et courage à vous. Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Alors, comme à chaque fois dans cette émission, on a plein d'appels qui arrivent. Vincent, qu'est-ce qui se passe?
On fait des heures supplémentaires.
Alors, on va garder parce que vous ne serez pas rémunérés. D'ailleurs, vous n'êtes pas rémunérés. On vous met de côté les questions qui arrivent là au standard. Il y en a 2-3 et on démarrera avec ces questions-là dans 4 semaines, puisque vous revenez dans 4 semaines, Vincent.
Avec plaisir.
Le jeudi, entre 9h et 10h, pour parler droit du travail au 03 83 36 20 20. Merci beaucoup.
À bientôt.